chers auditeurs, et bienvenue au 5e épisode de l'étudiant Time. Bonjour Shaima, bonjour Robin, vous allez
bonjour.
Bien
oui,
bonjour,
ça va très bien.
Ça va super.
Au sommaire de cet épisode, Robin nous parlera des alentours d'Angers et son histoire. Shaima nous parlera de comment débuter la lecture et notamment en version originale. Et moi-même, je vous parlerai de comment sortir de sa zone de confort.
Du coup, on commence avec les arts d'oisirs. Vous connaissez peut-être, si vous habitez à Angers depuis quelques temps, si, comme beaucoup d'étudiants, vous êtes nouveau sur Angers, vous ne connaissez pas forcément les arts d'oisirs. Bien, les arts d'oisirs, c'est là où il y avait une mine d'or. Une mine d'or. Alors évidemment, l'or bleu de Trélazé, que les gens d'ici connaissent ça comme ça. Je vous rassure, c'est pas du vrai or, mais ce sont des ardoises, les ardoises de Trélazé. Trélazé est une commune d'Angers, Angers-Loire Métropole, qui a quand même 15 000 habitants, et qui est au sud-est, grosso modo. Avec un sous-sol riche de ces belles plaques noires, les habitants de la région ont rapidement commencé à extraire des ardoises. D'abord par de simples trous de quelques mètres de profondeur, puis avec de plus en plus de moyens. Les premières traces d'exploitation à grande échelle des mines d'ardoises en Anjou datent de 1406. Ce n'était d'ailleurs pas encore une mine, mais une carrière. Donc à ciel ouvert et pas avec les wagons qui vont jusqu'à très profond. Prisées par les élites, ces ardoises de Trélazé parcourent la France et viennent protéger, par exemple, le beau château de Chambord des intempéries. Et oui, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais il a bien le toit d'ardoise, ce château. Elles y sont acheminées grâce à la Loire, puisque à l'époque, pas de Citonne, pas d'autoroute. Ça serait un peu bizarre sinon. Et en fait, 85% des transports commerciaux de l'époque se faisaient par transport fluvial. Je pourrais vous en parler plus en détail, mais de cette logistique de ce transport avec cette époque. Enfin, c'est super intéressant, même si c'est un petit peu de niche. Mais je vais rester bref. Les mines de Trélazé, donc, étaient des mines très actives, surtout à la fin du XXe siècle. Elles étaient très profondes et descendaient jusqu'à 400 mètres de profondeur par endroit. Je crois même qu'il y a des musées où on peut justement descendre dans ces mines. Attention, ne le faites pas tout seul cependant, hein, puisque ça reste des mines, des endroits de chantier, donc dangereux. Nous connaissons les mineurs du Nord avec les fameux corons, mais on connaît un peu moins les mineurs d'Anjou, et pourtant il y en avait aussi. On avait nos propres mineurs, que nous saluons évidemment s'ils nous écoutent, même s'il y a peu de chance, hein, mais on a une pensée pour eux. Et je dis bien, nous avions des mineurs, puisque les mines d'ardoises de Trélazé étaient les dernières mines d'ardoises de France. De 6 dans le bassin angevin au 19e siècle, enfin à la fin du 19e, il n'en reste aujourd'hui aucune, la dernière ayant fermé en 2014. Bon, on est au pays d'Astérix, donc quand on dit que toute la Gaule a été vidée de ses mines d'ardoises, c'est sans compter les irrésistibles petits producteurs, comme en Corrèze ou dans les Pyrénées. Aujourd'hui, l'ardoise que vous achetez dans votre magasin de bricolage ou chez vos artisans viennent pour la majorité d'Espagne. Si ce n'est pas de l'ardoise artificielle, faite en fibrociment. Et oui, parce qu'on n'arrête pas la technologie. Il y a des cartes aussi qui montrent la répartition des toits noirs en ardoise et des toits rouges en tuiles sur le territoire français. Eh bien, ça ne vous surprendra pas, les toits en ardoise sont concentrés dans l'ouest. Toute la Bretagne, une grande partie des pays de la Loire sont ardoisés. On observe un métissage des toits noirs et des toits rouges à Caen jusqu'à Amiens. J'ai l'impression de faire la météo en vous parlant de tout ça. Le massif central aussi partage cette noblesse de l'utilisation de l'ardoise. Enfin, une fine bande de terre dans les Pyrénées, au pied des montagnes, est ardoisée. L'impact du commerce est bien visible, notamment par exemple à Paris, où les ardoises ne sont pas une majorité des toits, mais sont tout de même sur les plus beaux bâtiments, sur les grandes avenues. On connaît un petit peu, si on a visité Paris, ces toits ardoisés. Ces ardoises sont prisées comme de l'or, je vous l'ai dit. Et comment parler des ardoises sans parler des carnons d'ardoises ? Immanquables et délicieux, ils sont une caractéristique de l'Anjou. Inspiré bien évidemment des ardoises, cette douceur est créée en 1966. Pour les personnes qui n'ont pas encore goûté ça, je vous conseille, ce sont des petits caramels nappés, justement d'un nappage bleu ardoise, enfin d'un bleu ardoise justement. Très sympathique. Donc je vous parlais au début de l'or bleu de Trélazé. Eh bien si l'or puisé des profondeurs n'est plus à Trélazé, il a été remplacé par un or comestible. Sur ce, mesdames, je vous laisse et je m'en vais en déguster.
Merci Robin pour ta chronique sur les ardoises de Trélazé. Je connaissais pas du tout. Je crois que j'y suis allée quand j'étais petite. mais je connaissais pas du tout. Ça a l'air très intéressant.
Oui, surtout qu'il y a un musée, si jamais vous êtes intéressé. Il se trouve du coup à Trélazé, à côté d'un très joli jardin.
Bah, c'est une bonne occupation pour le week-end, quand il fait beau, ça peut être pas mal. Merci Robin pour cette chronique. À présent, nous allons écouter Don Diablo avec Hot Air Balloon. Sur Radio G au 101.5 FM sur l'émission Étudiant Time. Alors aujourd'hui je vais vous parler de livres. On a pas mal de temps libre et au lieu de passer ses journées devant son téléphone, ça peut être une bonne idée de commencer la lecture. Personnellement, quand il recommence à faire froid, je trouve que c'est la période idéale pour passer des après-midi complètes à lire. Mais c'est bien de lire dans les jardins d'Angers, à Trélazé par exemple, ça peut être pas mal. Donc pour rendre l'utile à l'agréable, je vais vous donner des conseils pour débuter la lecture en VO. Parce que les lectures en langue étrangère, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de vocabulaire. Et c'est toujours bon, même pour les cours. Personnellement, je lis beaucoup, beaucoup de livres en anglais. Donc j'espère que vous allez pouvoir suivre mes conseils. Et bien sûr, ils sont valables pour toutes les langues, pas que pour l'anglais. Vous pouvez aussi lire en espagnol ou en allemand ou comme vous voulez.
Ah bah ça, j'écoute avec plaisir ta chronique, Shaima, puisque j'ai essayé un petit peu, moi, les livres en VO, mais ouf. Ah, j'ai vite décroché. Hein.
Ah, ça dépend par quoi tu commences aussi.
De comment ça, le Seigneur des Anneaux avec 2000 pages, comment ça, c'est pas...
Donc tout d'abord, pour la première étape, on va parler de où se procurer des livres en anglais. Parce que c'est peut-être un peu compliqué, pourtant peut-être que vous en rendez pas forcément compte, mais il y en a un peu partout. Déjà, les deux BU d'Angers proposent une section de livres en VO, même si celle de Belbeil en a un peu plus parce que c'est la BU spécialisée dans le littéraire, on va dire. De plus, la bibliothèque municipale propose aussi pas mal de livres en VO. Il faut juste bien chercher l'endroit où c'est. C'est vrai que c'est pas forcément exposé directement à première vue, mais ils ont toujours des sections de livres en VO. Et il existe une bibliothèque anglophone dans le centre-ville d'Angers, au 60 rue Boisnet. Et l'adhésion est gratuite pour les étudiants de l'université d'Angers. Et pour le coup, vous aurez accès à un large choix de livres en anglais et surtout des livres très récents. En dehors de ces options, vous pouvez aussi retrouver des sections VO à la librairie Reacher, à la librairie Contact aussi, à la FNAC, et sûrement dans plein d'autres librairies angevines. Pour ce qui est d'Internet, vous pouvez en trouver partout. Je vous conseille particulièrement les sites de seconde main. Vous avez Vinted, qui est assez connu, mais vous avez aussi Momox, qui permet d'acheter les livres de seconde main, donc c'est beaucoup moins cher. Et petites astuces, pour les livres en VO, en tout cas en anglais, ils sont beaucoup moins chers qu'en français sur Internet ou même en librairie. Et donc vous pouvez facilement acheter deux livres en anglais pour le prix d'un livre en français. Donc c'est plutôt sympa pour les budgets serrés.
Ah bah oui, le prix de la traduction en français qui du coup est en moins dans les livres en version originale.
Ouais, c'est ça. Et surtout en France, il y a une loi qui fait que les livres ne peuvent pas avoir de réduction, etc. Ce qui ne s'applique pas aux livres anglais, du coup. Il y a un tarif fixe pour les livres français pour protéger justement les auteurs.
Ah bah je ne savais pas, merci beaucoup.
Je crois que ça s'appelle la loi Yang. Ouais, je crois que c'est ça. Du coup, maintenant que vous savez où vous procurez des livres, il ne vous reste plus qu'à trouver le livre que vous allez lire en premier. Donc je pense que ce qui est le plus simple, c'est soit de commencer par un livre que vous avez déjà lu en français, soit par un livre adapté d'un film que vous avez déjà vu. Parce que ça va vous permettre de ne pas être perdu dans l'univers. Vous savez un peu qu'est-ce, l'histoire en fait, et vous aurez quelque chose à quoi vous raccrocher. Par contre, attention, je vous déconseille de commencer par un livre fantastique ou de fantasy ou même de science-fiction, à part si vous êtes vraiment très très fort en anglais mais, ou dans une autre langue, mais ça risque vraiment d'être compliqué au niveau du vocabulaire. Donc on oublie les Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux comme première lecture en VO. Ce que je vous conseille plutôt, c'est de prendre un livre contemporain, comme une romance ou sinon un thriller, mais pas quelque chose de trop compliqué, parce que comme je l'ai dit précédemment, les autres genres de romans ont un vocabulaire vraiment spécifique, et quand on n'est pas habitué, on va vite être perdu. Par exemple, je prends l'exemple de Harry Potter. En français, il est très facile à lire. En anglais, le vocabulaire qu'il y a en français n'est pas du tout le même en anglais, donc on peut vite être perdu, même si ça peut nous sembler un livre pour enfants de base, mais c'est pas le plus facile à lire en premier.
Ah, pour moi, je pense que ouais, si je lis ça, à peu près toutes les phrases vont me paraître comme un sort, sauf que non, c'est bien de l'anglais.
Ah oui, c'est ça en fait, c'est vraiment assez compliqué, donc il faut prendre des livres très basiques où le vocabulaire va pas être trop compliqué, parce que sinon vous allez vite vous décourager en fait. Et vous n'allez pas passer un moment agréable, alors que le but, c'est vraiment de passer un bon moment. Vous n'allez pas vous forcer non plus à lire. Vous pouvez aussi trouver des livres anglais-français. Enfin, ça existe surtout sur les classiques. Mais les livres où, par exemple, vous avez une page en anglais et à côté, vous avez la page en traduction française, c'est plutôt pas mal. Ça se fait plus pour les livres du genre classique parce qu'ils sont très compliqués à déchiffrer. C'est un vocabulaire assez pas familier pour nous, en tout cas. Pour finir, mon dernier conseil, c'est de ne pas se décourager, parce qu'au début, selon votre niveau, ça risque d'être compliqué. Ça demande beaucoup d'efforts à votre cerveau, et c'est normal parce que c'est pas votre langue maternelle normalement. Donc c'est pas vraiment le genre de lecture que je vous conseillerais, par exemple, avant de dormir, parce que ça va être très compliqué pour vous de pas perdre le fil. Mais vous verrez qu'une fois dans l'histoire, vous allez finir par comprendre, et au bout de 1, 2, 3 livres, vous aurez l'impression de lire un livre en français en fait. Donc j'espère que mes conseils vous auront aidé, et je vous encourage vivement à commencer la lecture en VO, car ça a plein de bienfaits et ça vous permet de vous améliorer en langue tout en vous détendant.
Et merci beaucoup, Shaima. J'aurais juste une question avant, parce que aujourd'hui on est de plus en plus dans la période des audibles, des livres audio, etc. Les livres audio en version originale, tu conseilles aussi ?
Oui, j'ai déjà essayé, et vous en avez par exemple sur Audible, etc. Vous en avez comme pour les livres français, et c'est pas mal. Après, ça demande un peu moins, mais un peu plus d'attention. Parce que du coup, il faut plus écouter. Mais si vous avez l'habitude de regarder vos séries et vos films en VO, c'est presque la même chose. Après, c'est vraiment, ça peut être intéressant quand vous faites autre chose en même temps. Et ça revient un peu au même. Même si je pense que lire en VO, c'est pas la même... c'est pas la même attention, enfin c'est pas la même attention du cerveau qui est demandée plutôt que d'écouter en VO, mais ça peut être tout aussi bien.
D'accord, bah merci beaucoup Shaima.
Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons parler d'une peur que nous avons tous, mais de façon et de degrés assez variés en fonction des personnalités de chacun ou de chaque personne. Il s'agit de la peur du changement, autrement dit, la tendance à rester dans sa zone de confort. Alors, est-il bénéfique de se limiter dans sa zone de confort et d'éviter le changement ? La réponse est clairement non, car malgré l'aisance qu'elle nous assure la zone de confort, celle-ci nous empêche de vivre un niveau de stress et d'anxiété optimal, qui nous est sûrement très bénéfique pour éviter la stagnation et assurer un progrès et une amélioration continue de nos capacités et compétences d'apprentissage. C'est pourquoi il est très important d'apprivoiser sa zone d'inconfort afin d'améliorer son adaptabilité au changement. Pour ce faire, je vous proposerai aujourd'hui trois astuces qui vous aideront à sortir de votre zone de confort. Premièrement, il s'agit d'établir des objectifs quotidiens. En fait, dans ce point, je vous proposerai de vous fixer un ou deux objectifs, ou deux petits objectifs surtout, à accomplir chaque jour afin de vous rapprocher de votre objectif ultime. Car le fait de diviser un grand objectif à des petites tâches quotidiennes vont le rendre beaucoup plus facile à atteindre. Et surtout, cela va vous motiver parce qu'il va vous donner l'impression que l'objectif que vous voulez réaliser sera plus facile à faire et moins fatigant.
Ah oui, les fameuses techniques des listes, beaucoup de gens, ça aide beaucoup de gens, je sais que moi j'y arrive jamais, mais c'est vrai que c'est vraiment utile.
Oui, tout à fait, parce que ça va vous permettre d'être plus efficace en constatant votre progrès quotidien. Et pour ce faire, vous pourrez créer un petit programme sur des applications et des to-do list que vous trouverez en ligne et qui vous aideront énormément à économiser le temps.
Ou même un petit bout de papier, hein. Je fais le vieux con, hein, mais un bout de papier ça marche bien aussi, des post-it.
Oui, le but c'est vraiment d'être à l'aise dans sa méthode et de se fixer quotidiennement des objectifs. Deuxièmement, il s'agit d'élargir son cercle de connaissances. La chose la plus importante, si vous voulez vraiment vous libérer de votre zone de confort, c'est d'essayer de connaître plus de personnes et de développer votre réseau de connaissances. Et surtout, à passer votre temps avec des gens motivés, qui pourraient vous inspirer et vous motiver à donner le meilleur de vous-même. Et en fait, cela me rappelle une petite vidéo inspirante que j'avais vue dernièrement sur Instagram, où un coach disait « Dis-moi les personnes que tu fréquentes et avec qui tu passes beaucoup de temps aujourd'hui, et je te dis qui tu seras dans 5 ans ». Et c'est tellement vrai, car on est tous influenceurs et influencés par les gens qu'on rencontre et qu'on fréquente au quotidien. Et donc, qu'on le veuille ou pas, on sera surtout et on sera toujours influencé d'un certain pourcentage par les idées et les habitudes des gens qu'on connaît et qui nous entourent. Donc, choisissez bien votre compagnie, car elle impactera sûrement votre avenir.
Alors, perso, je suis moyen d'accord avec ça, tout de même... Parce que moi, je sais que j'ai des amis qui sont bibliothécaires, enfin, qui sont en études de bibliothécaire, des amis en études d'archiviste. Pourtant, je suis très sociable et j'aimerais bien m'orienter vers un travail de communication avec les autres. Pour moi, je suis moyen d'accord avec ça, tout de même.
En fait, l'idée, c'est pas que les personnes que tu connais vont changer ta mentalité ou ta façon de penser, mais ils peuvent... Leurs habitudes, par exemple, elles peuvent t'impacter indirectement. Et un exemple, parfois, on constate des mauvaises habitudes que peut-être notre famille, nos frères ou nos parents, ils font, et qu'on critique parfois. Et après quelques années, on se rend compte qu'on commence à faire la même chose.
Ah oui, ça, avec la famille, ça marche vraiment. Oui. C'est impressionnant.
Et je pense, les amis aussi, ça impacte, parce que si tu passes beaucoup de temps avec des personnes, ils vont vraiment, après on a dit de pourcentage plus ou moins important, mais ils vont vraiment impacter ta façon de penser. Le troisième point, il s'agit de visualiser votre succès. Donc il est important de ne pas se contenter d'imaginer qu'on a réussi. En fait, c'est bien d'imaginer et de se dire qu'on va réussir et d'en être sûr, parce que c'est bien de l'optimisme, ça vous donnera une énergie positive, mais il est aussi important de visualiser son trajet de réussite. Comme le font les champions olympiques d'ailleurs, qui se visualisent surtout en train de suivre les mouvements de la course. et il a été prouvé scientifiquement que cet outil va augmenter votre volonté mentale et il vous donnera plus de confiance en vous. En plus, cela va même vous aider à trouver des solutions inattendues aux problèmes que vous pourriez potentiellement rencontrer. Car l'idée, tout simplement, c'est de vous imaginer ou d'imaginer des scénarios réalistes au sujet de l'objectif ou de la chose que vous voulez atteindre au futur. Et donc, contrairement à ce que l'on pense, cela vraiment va vous être utile, car ça vous fera gagner du temps et ça va vous aider à vous sentir préparé psychiquement à ce que vous allez vivre par la suite. Donc, enfin, j'espère que ces petites informations vous ont encouragé à essayer de sortir de votre zone de confort, ce qui est vraiment très important, car c'est en sortant de cette zone que nous vivions les choses telles qu'elles sont vraiment. Donc, sans doute, il y aura toujours des accidents en cours de route, mais vous serez mieux adapté à naviguer entre-temps.
Bah super, merci beaucoup Rim pour cette... En vrai, c'est vachement intéressant. Certes, il y a des points où je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est ça aussi, hein, la vie, c'est de ne pas être d'accord sur tout, encore heureux.
Je trouve que c'est très inspirant, c'est positif et c'est inspirant.
En tout cas, merci beaucoup les filles pour cette émission.
Merci à toi.
On va se laisser avec une musique. On va se laisser avec The Blaze, avec l'artiste The Blaze et la musique Territory. Merci à tous et à dans deux semaines.
Merci,
à la prochaine.
light of our past. But she's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forgot about me? She's the most beautiful girl you've ever seen. An eternal love bullshit, you know you'll never mean. Remember when I believed? You meant it when you said it first to me. And now I'm picking her apart, like cutting her down will make you miss my wretched heart. But she's beautiful, she looks kind. She probably gives you butterflies. I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know. I can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy. I wish you all the best. It's not like how you were with me. I'm selfish, I know. Can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy, but don't be happier.
Radio G 101.5 FM.